personne. Ogenki desu ka ? Bonjour tout le monde, comment ça va ? Moi, super ! Après Halloween et ses festivités remplies de fantômes et d'esprits délirants. Pour plus de détails sur le Halloween au Japon, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière à consulter sur notre Facebook Yokoso Émission. Si vous souhaitez participer, je vous rappelle que vous pouvez me laisser un petit message sur Twitter Yokoso Émission, Yokoso Émission. Idem pour le Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler des yokai et kami. Qui sont-ils ? On va commencer par une petite étymologie. Les yokai sont des esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, surtout mauvais selon la croyance populaire qui forme ce mot. Le premier signifie ensorcelant, attirant, calamité. Et le deuxième, mystère ainsi que apparition. Méfiance ou mystère. Il y a également Ayakashi qui est constitué des caractères Mononoke. Et oui, comme dans Mononoke Hime ou Princesse Mononoke de Miyazaki. Ce caractère signifiant monstre, fantôme, esprit, chose étrange au sens littéral. Le comportement des yokai est assez particulier. Ils sont espiègles, à malveillants et portent parfois chance, comme quoi, hein. Si on croise les doigts, on en aura peut-être un petit peu. Ils ont parfois des attributs d'animaux tels que les kappas, qui ont les écailles de la tortue, les tengu et les tanuki, qui sont deux gros blaireaux qui, vulgairement parlé, portent leurs couilles sur leurs épaules. Et oui, parce qu'ils en ont une énorme paire. Leurs pouvoirs surnaturels majeurs sont bien évidemment la métamorphose. Le terme yokai est également utilisé pour désigner les phénomènes surnaturels ou inexplicables. On peut également dire que de nombreux artistes de l'ère Edo se sont inspirés de ces êtres légendaires pour créer leurs estampes. Bien entendu, lors de l'ouverture du Japon à l'ère Meiji, les yokai tombèrent en désuétude. Ils regagnent cependant en popularité de nos jours. Quelques yokai connus, on pense bien évidemment au tanuki, au kitsune qui veut dire renard, hebi, serpent. On pense notamment aux femmes qui ont subi des émotions très négatives, qui se sont transformées en hebi. Mujima, le blaireau, donc on pense à nos bons tanuki. Bakeneko, Tsuchigumo et Jorogumo. C'est-à-dire l'araignée, Inugami, donc le chien. Les Tsukumogami sont un type à part entière de yokai et d'obake, comprenant ordinairement des objets domestiques. Voilà, c'est-à-dire on peut penser au Chuchinobake, lanterne qui, trop longtemps oubliée dans votre grenier, se transformera en lanterne magnifique flottant dans les airs et crachant des flammes. Très sympathique pour Halloween. Je n'hésiterai pas à vous mettre quelques petites images sur le Facebook pour que vous ayez plus ample idée de ce à quoi ça ressemble. Bien évidemment, un grand nombre de yokai sont des êtres humains ordinaires à l'origine, transformés soit après leur mort, soit après une émotion trop forte. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les femmes qui souffraient trop d'émotions négatives comme la jalousie, la tristesse, se transforment en oni, démons femelles représentés souvent par des masques hanya. D'autres exemples de transformations humaines, le Rokurokubi, des humains capables d'allonger leur cou durant la nuit, très flippant. Ohagoro Betari, un visage de fantôme, généralement de femme, qui montre seulement une grande bouche noire et souvent très très méchante. Futakuchi Onna, c'est-à-dire une femme qui a une bouche généralement difforme, monstrueuse derrière la tête et qui fait preuve d'un appétit assez vorace. On pensera effectivement en dernier au Dorotabo, le cadavre d'un fermier qui hante sa ferme constamment. Voilà. Évidemment, un petit point culture avec les mangas et jeux qui pourrait vous intéresser. Alors, avec le sujet des yokai et kami, vous en trouverez dans Nora, le seigneur des yokai, Yokai Monster, The Great Yokai War, Inuyasha, Yokai Watch, Toho Project, Okami, Camille Sama Hajime Machete et bien d'autres. On peut également vous citer le site yokai.com, yokai.com. Nous passons maintenant au kami. Qu'est-ce qu'un kami ? Un kami est un esprit, plus qu'un dieu, comme nous le précisera tout à l'heure Monsieur Horté. Ils sont célébrés dans la religion Shinto. Ce sont également des éléments de la nature, des animaux ou des esprits de personnes décédées. À savoir que, d'ailleurs, la religion shintoïste est la religion officielle japonaise. Le folklore japonais est une combinaison des traditions issues des tribus isolées qui viennent des îles japonaises. Pour rappel, les îles du Japon sont Kyushu, Honshu, Shikoku et Hokkaido. Les yokai sont bons, aimés, aimants, si respectés, mais mauvais et colériques, si maltraités. Attention donc à vous, si vous leur manquez de respect. Ils habitent dans des lieux sacrés. Ils ont deux esprits, un que l'on peut dire calme, le Nigi Mitama, et l'autre sûr de lui, Ara Mitama. Dans le Shinto Yamakage, les kami ont deux esprits en plus, des esprits qui sont cachés. Il y a l'esprit heureux, Saki Mitama, et l'esprit mystérieux, Kushi Mitama. Bien sûr, les kami sont invisibles du monde des humains. Ils peuvent tenter une personne lorsqu'elle fait un rituel, un lieu ou alors un objet, mais ne se fixent jamais définitivement. Ils sont en quelque sorte mouvants. Il y en existe plus de 300 sortes. Et bien évidemment, le peuple doit respecter et veiller au bonheur et bien-être des kami via des prières, des offrandes. Et ces derniers doivent exécuter en échange la tâche pour laquelle ils sont faits. Quelques kami célèbres, on va penser à Ame no Uzume, communément appelée Uzume, c'est la déesse de l'aurore et des réjouissances. Amaterasu Omikami, habituellement appelée Amaterasu, c'est la déesse du soleil et l'ancêtre de la famille impériale du Japon. Elle est d'ailleurs à l'origine de l'un des seuls mythes fondateurs de la religion Shinto. Nous penserons ensuite en troisième à Ame no Koyane, une divinité de sexe masculin, considérée comme le premier en charge des affaires divines, en gros l'assistant dans les cieux autant que sur terre, puisque c'est l'assistant du premier empereur du Japon. Il est aussi considéré comme l'ancêtre de la famille Fujiwara. En 4, nous avons Fujin, aussi connu comme Kaminokaze. Il est le dieu japonais du vent. En japonais, vent se dit kaze. Et l'un des plus anciens dieux Shinto. On dit d'ailleurs qu'il était présent lorsque le monde a été créé. Et il est souvent représenté comme un oni, c'est-à-dire un ogre japonais, avec un sac porté sur son dos. Je vous mettrai aussi quelques photos, vous allez voir, il a l'air très très sympathique, ce monsieur. En 5, nous avons Hachiman, connu comme Yawata no Kami. Il est le dieu de la guerre et le divin protecteur du Japon et de son peuple, donc des Japonais. À l'origine, c'était quand même une divinité de l'agriculture le gardien du clan Minamoto. Il s'est donc bien reconverti. En 6, nous avons Inari, c'est-à-dire dieu relatif au riz et à la fertilité. Ne me demandez pas le rapport, je n'en vois aucun. Des messagers et animaux symboliques, ce sont des renards kitsune. Nous allons ensuite passer à la religion Shinto. La religion Shinto. Que veut dire Shinto ? Eh bien, shintoïsme veut dire voix des dieux ou la voix du divin. Il y a environ 100 millions de pratiquants au Japon contre 91 millions de bouddhistes. Ce courant serait apparu à l'époque Jōmon. Il a un caractère sacré se reposant sur la nature et une sorte de polythéisme, si l'on entend cela comme une religion, mais nous verrons tout à l'heure que c'est plus délicat que cela. C'est vu de façon ouverte par les Japonais qui, au long de leur vie, n'hésiteront pas à switcher d'une religion à un courant de pensée, au shintoïsme, ce genre de choses. On peut très bien commencer par faire un baptême chrétien, une union shinto et finir par un enterrement bouddhiste au Japon. On est open-minded. Le shintoïsme, c'est aussi donner une vie, donner presque une pensée à quelque chose d'inanimé. Un astre, une notion abstraite, telle que la fertilité, le bonheur, ou un objet de la nature, comme une pierre, une herbe. un arbre. Et tout ça peut être considéré comme une divinité. On parle aussi de flux de vie s'incarnant dans les kamis, comme nous l'avons cité tout à l'heure. Pour finir, je dirais que chaque parcelle de vie est sacrée. Mais il est désormais temps de passer à notre débat avec Monsieur Hortet. Je suis en présence de Monsieur Hortet. Bonjour Monsieur Hortet, comment allez-vous ?
Bonjour tout le monde, ça va bien ?
Bon, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler des yokais et des kamis.
Ouais.
Et du shintoïsme également, n'est-ce pas ?
Bah oui, par la même occasion. Ouais.
Par la même occasion. Alors vous qui avez vécu un certain temps au Japon, qui travaillez encore en tant que professeur de japonais, est-ce que vous avez un petit mot particulier, une petite anecdote particulière vis-à-vis de ce milieu-là, du shintoïsme, des yokai et kami ?
Oui, parce que moi c'est vraiment... c'est rapidement devenu un centre d'intérêt pour moi parce que ce qui m'a attiré vers le Japon, c'était, pour en résumer, c'était l'exotisme de la culture, mais aussi en même temps, j'ai toujours été proche, j'ai été élevé en Afrique centrale, et il y a un aspect du Japon qui n'est pas toujours présent ici en France, là, mais qui, moi, me parlait beaucoup, c'est le fait que ce soit une culture animiste. Et donc, animiste, bon, c'est un mot valise, quoi, qui recouvre... plein de réalités en fait qui sont tout à fait différentes, mais il y a un lien direct entre, il y a cette parenté en tout cas entre l'Afrique centrale, le Cameroun d'où je venais, et le Japon de ce point de vue-là. Et du coup, bien sûr, ben, l'animisme, c'est une façon de considérer les choses, des croyances et tout. Donc c'est par ce biais-là que du coup j'ai senti un intérêt pour ça.
Est-ce que pour vous, l'animisme va au-delà de la religion ? Est-ce que ça peut être considéré comme une religion ou comme un courant, comme une philosophie de vie, une pensée ?
Les termes sont marrants déjà. En fait, c'est ça qui est probablement le plus intéressant. C'est que le fait de se poser la question déjà de savoir si c'est une religion ou une philosophie, c'est typiquement une question qui est conditionnée par le cadre culturel qu'on a ici, quoi. Le fait qu'on soit dans une religion, enfin chrétien ou ex-chrétien ou musulman, c'est le même type de croyance, assez exclusive aussi, quoi, avec Dieu, au ciel et compagnie, là, le bien, le mal. Et dans ces cultures-là précisément, dans les cultures animistes, casées ou non adoptées par ailleurs ce genre de croyances-là, que sont les religions révélées là, du livre. Casés ou non adhérer à ça, c'est-à-dire c'est le cas en Afrique par exemple, c'est le cas au Cameroun, avec l'islam et puis le christianisme. Au Japon, c'est pas le cas, ils n'ont pas adhéré, il y a 1% de chrétiens là-bas. Les problématiques sont tout à fait différentes, donc c'est vrai que du point de vue de gens qui croient à Dieu et puis son livre sacré, non, c'est pas des religions, et c'est pas non plus des philosophies, parce que il n'y a pas de... réflexion intellectuelle, des démarches logiques et compagnie, c'est plutôt une spiritualité, je dirais, ouais, peut-être le terme, c'est plutôt spiritualité, c'est une façon de ressentir les choses, quoi. Mais c'est clair que c'est une spiritualité dans laquelle on ne se pose pas du tout des questions de savoir si c'est bien, c'est mal, et si c'est Dieu ou son contraire, voilà, c'est en dehors de ça.
Bien
c'est
sûr.
Le cas pour les yokai, d'ailleurs, pour les kami, ils sont ni bien, ni bon, ni mauvais, c'est pas ça le problème, quoi.
Qui dit spiritualité dit peut-être quand même un certain chemin. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un chemin au-delà de la philosophie, au-delà de la religion personnelle au travers de cette façon de pratiquer le shintoïsme ?
Ben, faire un chemin, le fait de vivre soi-même, c'est de toujours changer, se transformer, avancer. Donc le chemin, c'est la vie même, non ? C'est clair. Et par contre, c'est vrai que un truc qui est pas mal avec ce chemin-là, c'est que si qu'on soit chrétien ou musulman, ex ou récemment on a attendu à nouveau le mot, moi ça me fait trop marrer, d'apostat ou des trucs, vocabulaire moyenâgeux, quoi, dans ce genre de conception-là, c'est vrai qu'il y a un chemin, il y a le bon chemin, le mauvais chemin, et tandis que précisément, et puis il y a un but aussi. Tandis que dans ces conceptions animistes, c'est pas un hasard si, par exemple, en japonais, il n'y a pas de temps. C'est vrai qu'on ne cherche pas une réalisation, et je pense qu'il y a beaucoup moins une idée de réalisation individuelle, personnelle. C'est surtout des cultes collectifs. Donc là encore, les questions se posent différemment. C'est ça qui est passionnant, je trouve.
Quelle est la vision des Japonais face aux religions, au shintoïsme au Japon, est-il si facile de switcher, si j'ose dire, de passer d'un courant à un autre?
Oui, c'est vrai que la question est bien vue, quoi. On sent qu'on a affaire à une spécialiste, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que se posent les choses. Il y a ce sondage là qui est un peu daté, mais dont les chiffres n'ont pas tellement changé et qui est très amusant pour expliquer ça. C'est que quand on demande aux Japonais, je dis bien c'est en gros, hein, évidemment bien sûr que c'est en gros, mais si on fait un sondage pour savoir combien sont se déclare d'un courant Shinto, le Shinto, donc l'animisme japonais, 70% des gens ont tendance à s'identifier un peu comme Shinto, ou du moins ayant des pratiques, plutôt c'est ça, ayant des pratiques Shinto, ils vont au temple et compagnie, ils font des offrandes, etc. Et 70% se disent bouddhistes. Alors déjà là, ça, du point de vue des conceptions qu'on a ici, à l'ouest ou dans notre monde, là, c'est assez bizarre, ça fait déjà 140, quoi. Et il y a 70% par ailleurs qui se disent athées, quoi. Le terme japonais, monsieur kyo, ça veut dire sans religion. Et c'est amusant parce que au Japon, c'est tout à fait compréhensible, ces chiffres-là. Et l'explication rapide de ça, c'est que c'est pas des croyances exclusives. C'est vrai que si on est... dans la version standard, quoi, où si on est musulman ou chrétien ou juif, on suppose qu'en même temps, on n'est pas autre chose, parce qu'on n'est pas censé, n'est-ce pas? Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces croyances-là. Mais par contre, si on considère que le bouddhisme, c'est une analyse assez fine de la psychologie humaine et que ça pose bien les choses et que ça désigne un chemin de progrès, on peut se considérer comme bouddhiste. Moi, j'ai pas de drapeau, mais ayant découvert le bouddhisme au Japon, je trouve que c'est vraiment très fin comme façon de voir les choses. Je dois être un peu bouddhiste. Et puis, si on a une vision de la générale là, du cosmos dans lequel on se trouve comme quelque chose d'animé peut-être, ou qui a sa vie, et qu'on voit bien qu'on est un acteur de ça, on est sans doute un peu animiste, hein. Mais aussi on peut avoir ces approches-là et être athée, par exemple. Ne pas adhérer à des religions où il y a un livre, etc. Et de ce point de vue-là, je me suis trouvé dans des situations avec des Japonais qui considéraient que vis-à-vis d'un occidental, ils ont un terme amusant qui... Obeijin, qui désigne les Européens et les Américains, qui fait que vis-à-vis de ces personnes-là, c'est un peu le genre de sujet tabou, quoi. Faut pas parler de religion, c'est un peu louche et un peu effrayant. Pour beaucoup de Japonais, l'adhésion qu'on peut avoir à des valeurs, je sais pas, peut-être sans doute, qui semblent assez abstraites et un peu effrayantes, parce que concrètement, on sait bien qu'à travers l'histoire, ça a servi pas mal à se battre ou à coloniser les gens. Donc il y a voilà un peu la super longue réponse que je te fais.
Très bien, très bien. Allez-y. Il nous reste 5-6 minutes. Ouais. J'ai encore quelques questions. je vais trier.
Ouais. Faut pas inviter des bavards, hein.
c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Alors, j'ai une autre question pour vous, monsieur Orte. Oui. Comment les dieux et le shintoïsme survivent-ils dans le Japon actuel? Comment se mêlent-ils à la vie quotidienne des Japonais?
Ah, ils sont très très utiles. En fait, ils sont. Je pense pas qu'il y ait de désaffection, parce que ils ont leur domaine d'activité. On sait bien que le Japon, c'est aussi un pays bouddhiste. Et du coup, au Japon, pour ce qui est de la naissance, de la mort, ça se passe vraiment, c'est quelque chose qui est un peu le domaine réservé du bouddhisme, parce que le bouddhisme a une idée à propos de où va l'individu, etc. quoi. Tandis que l'animisme répond pas tellement, ne se pose pas trop ce genre de questions-là, ne se place pas à ce niveau-là. Mais encore maintenant, si on veut se mettre de côté le terme de Dieu, n'est-ce pas, même au pluriel, c'est, n'est pas adéquat, hein, c'est pas la traduction.
Les camis, plutôt.
Les camis, quoi, ouais, ou des forces. Hein. Oui. Les jeunes, par exemple, les lycéens ou même des étudiants à l'université qui veulent réussir tel ou tel concours, ils vont bien sûr au sanctuaire Shinto, parce que c'est comme ça qu'on appelle le lieu de culte, hein, le Jinja, le sanctuaire Shinto, pour faire des offrandes et s'adresser à ces forces-là, plutôt peut-être forcer, c'est peut-être un peu mieux, quoi, que des dieux. Donc c'est vraiment très vivant, quoi. Le truc n'est pas remis en... Il n'y a pas de raison d'être remis en cause, parce que comme, en fait, les obligations intellectuelles sont faibles là-dedans, quoi, et que c'est pas des... un peu intense, et puis qu'ils n'ont pas l'histoire... ils n'ont pas une histoire trop chargée, un peu quand même, hein, avec le Shinto, de crimes et compagnie, ou de guerre de religion, comme on a eu ici. Non, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui est très vivant. Et le bouddhisme aussi est assez vivant. Et puis, pour ce qui est de l'athéisme, il l'est de plus en plus, quoi. Quand ils regardent les nouvelles, ils voient ce qui se passe dans d'autres endroits du monde. Je pense qu'ils sont bien contents d'être... d'avoir cette liberté d'esprit.
Tout à fait. Cependant, il y a eu quand même un passage dans l'histoire dans lequel peut-être les kamis et yokai ont moins trouvé leur place. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée dans l'ère Meiji, où le Japon s'ouvre quand même plus à l'Europe, aux autres pays? Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a eu peut-être un petit peu moins de place à ce moment-là pour ce monde un petit peu fantasque?
Cet espace de croyance-là. Parce que il y avait la découverte de l'esprit scientifique et de comment on pourrait dire une certaine forme de rationalité ou de cartésianisme. En fait, non. En même temps, il y a eu un mouvement. Bon, sans rentrer dans les détails, hein, de la précision des, il y a des étapes qui sont amusantes, mais ça, en allant en résumé, en fait, quand ils ont constaté que ils avaient un désir de conserver, de pas être colonisés, de conserver leur identité, et ils ont bien compris que le Shinto, c'était la seule chose qui pouvait en gros servir de croyance de religion nationale. Et du coup, ça a été érigé, ça a été utilisé politiquement. C'est ça en fait ce à quoi je faisais attention, allusion tout à l'heure, là, le fait que quand même c'est un peu louche par certains aspects le Shinto, parce que ça a été récupéré par les partisans de l'empereur et du nationalisme japonais, et après par les militaires même. Ça a été un peu remis au goût du jour des rites, parce qu'ils voulaient un peu avoir leur christianisme comme les Européens, quoi. Et ben, c'était beaucoup plus délicat de faire cette opération-là, mais ça a été fait. Bon, les yokai ne sont pas directement associés au Shinto officiel en tant que culte national. Mais non, il n'y a pas eu de déperdition. Et comme il y a beaucoup d'écrivains à cette époque-là, il y a eu, ben, comme toujours au Japon, dans les littératures populaires, etc. Non, je pense qu'au 19e siècle, on trouve profusion de yokai et un grand développement de yokai aussi dans les campagnes, dans les régions.
D'accord.
Donc, mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'effectivement, il y a certainement certaines personnes qui associent ça à des choses passéistes, hein, probablement.
Dans mon souvenir, d'ailleurs, l'empereur du Japon est associé à la déesse Amaterasu, si je ne m'abuse.
Ah, là, c'est vrai que cette...
Enfin,
cette
au Kami.
Je suis vraiment sacrilège. c'est pas directement des yokai, parce que...
Non, ce sont plus des Kami.
C'est plutôt un mythe fondateur qui explique, comme il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs dans le Shinto, c'est pas des yokai, hein, c'est des êtres surnaturels, voilà, qui jouent ce rôle-là, même si ça fait partie de cette pensée animiste-là.
Les kami, d'ailleurs, peuvent-ils avoir un côté négatif, comme on retrouve plus chez les yokai?
Ah, les kami, ben oui, parce que en fait, ils sont censés être réalistes. Et puis, bon, les Japonais ont cette conscience-là, hein, du fait de ce qui les distingue. Beaucoup de Japonais, enfin en tout cas des intellectuels ou des chercheurs, des historiens qui se posent sur la question, voient bien que ce qui les distingue de la pensée européenne, c'est qu'il n'y a pas cette dissociation entre le bien et le mal. Moi, je ne suis pas de la génération des lecteurs de manga ou des gens qui regardent les animés. Je ne connais pas la culture populaire japonaise, là. Mais je pense que, moi, je vois ça chez mes élèves, ceux qui aiment ce que les jeunes aiment pas mal, ou style les ados ou quoi, aiment pas mal là-dedans, c'est que les personnages sont complexes, ils sont ni bons ni mauvais, et bon, voilà, c'est simplement parce que ils sont réalistes, quoi. Ils sont pas, c'est pas Walt Disney ou c'est pas un truc du bien, une lutte entre le bien et le mal. Et c'est vrai que chez les yokai, ils sont plutôt quand même un peu galères, quoi. les yokai, ils peuvent être un peu durs et cruels, et ils peuvent éventuellement être bénéfiques, mais en général, c'est plutôt des présences un peu effrayantes, quoi. Tandis que les kami, ils ont pas ce côté espiègle là, de venir tirer les jambes des gens, enfin les tourmenter, quoi.
Chez les yokai, on pense notamment au kappa, n'est-ce pas?
Oui.
Et au tanuki, au tengu, ce genre de choses.
Oh
il
ouais.
Y en a qui sont plus populaires que d'autres, mis à part ceux que j'ai cités, selon vous?
Alors, oui, il y a un site, parce que je me suis renseigné quand même pour avoir l'air de faire des trucs
c'est
vraiment
pertinents. C'est bien, c'est bien.
J'ai regardé, j'ai fait quelques recherches là, et je suis tombé sur un site qui s'appelle Nichibun, nichibun.ac.jp, c'est là pour qu'on veut le trouver. Bon, c'est en japonais en fait, mais qui recense, c'est des gens qui sont lancés, je pense, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, dans le recensement des yokai au Japon, c'est-à-dire dans chaque région. Et si je me rappelle bien, est-ce que c'était 16 000 qu'ils ont, ouais, c'est ça, 16 000. Je pense que depuis, il y en a encore plus. Et c'est trop marrant, je suis un peu rentré là-dedans. Et il n'y a pas toujours d'illustration, mais il y a une description des croyances locales et de l'aspect de la bestiole, enfin du yokai, etc. Donc 16 000, c'est dingue, quoi. Ça veut dire que c'est une façon de concevoir les choses, une façon de prendre les choses, qui fait que quand il se passe ceci ou cela, déjà l'histoire est transmise, parce que c'est un pays de l'écrit, le Japon. Donc il y en a qui sont très vieux, il y en a qui sont très récents, mais il y en a de toutes les sortes.
Merci beaucoup, Monsieur Orte. Nous allons nous quitter sur cette phrase, mais je ouais. vous... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Ben, il faut que vous fassiez peut-être une petite offrande, un biscuit ou quelque chose comme ça, quelque part, pour qu'il n'y ait pas un yokai dans le studio. Tout l'enregistrement, les techniques et tout ça là. Moi je vois ce genre d'équipement là, pointu, les yokai ils vont adorer se mettre là-dedans, donc il faut vous prémunir contre ça.
Nous, très bien. Très bien.
Je vais invoquer la déesse de la mer pour qu'elle vous protège. Bon, au revoir tout le monde.
Au revoir, merci beaucoup, monsieur Orte.